Ce n'était pas la première fois que Valérie me faisait observer combien la présidence me changeait peu. Je comprenais qu'il s'agissait d'un compliment, une manière de me dire qu'elle était soulagée que je n'ai pas pris la grosse tête ni perdu mon sens de l'humour, ou que je ne sois pas devenu un sale type amer et colérique. Mais dans une période où la guerre et la crise économique s'éternisaient et où nos problèmes politiques s'accumulaient, elle commençait à craindre que ce calme ne soit qu'une façade et que je ne refoule tout mon stress. Elle n'était pas la seule. Des amis se sont mis à m'envoyer des mots d'encouragement empreints de gravité et de sincérité, comme s'ils avaient appris que je souffrais d'une maladie incurable. Martin Esbitt et Eric Whittaker ont évoqué la possibilité de venir me voir pour que nous regardions un match de basket ensemble, une soirée entre potes, histoire de me changer les idées. Mama Kay, en visite chez nous, s'est montrée authentiquement surprise de me trouver aussi en forme. « À quoi est-ce que tu t'attendais ?» ai-je dit pour la taquiner. « À ce que j'ai de l'urticaire sur le visage, que je perde mes cheveux ?»« Oh, arrête donc un peu » a-t-elle répondu en me donnant une tape affectueuse sur le bras. Elle s'est écartée de moi et m'a regardé de la même façon que Valérie, en guettant des signes. « Je crois que je m'attendais juste à ce que tu aies l'air plus fatigué. Est-ce que tu manges comme il faut ?» Déconcerté par toute cette sollicitude, j'ai fini par m'en ouvrir à Gibbs. Il a gloussé. « Vous savez, patron, si vous regardiez les infos, vous vous feriez aussi du souci pour vous. » Je comprenais ce qu'il voulait dire. Une fois qu'on devient président, la perception de nous qu'ont les autres, même ceux qui nous connaissent le mieux, est forcément influencée par les médias. Mais ce qui m'avait en partie échappé, du moins jusqu'à ce que je zappe sur quelques chaînes d'information, c'était que le ton des reportages sur mon gouvernement avait changé. Lorsque nous étions en haut des sondages, entre la fin de la campagne et le début de ma présidence, la plupart des journaux me montraient actif et souriant, en train de serrer des mains ou de parler devant un décor impressionnant, avec des gestes et des expressions irradiant l'énergie et la maîtrise. La majorité des informations étaient désormais négatives, et une autre version de moi était apparue. Vieillie, marchant seule sur la colonnade ou la pelouse sud pour rejoindre Marine One, les épaules tombantes, les yeux baissés, les traits creusés par le poids de ma charge. Maintenant que le vent avait tourné, c'était la version triste de moi qui se trouvait exposée au regard. Dans les faits, ma vie était loin d'être aussi lugubre. Comme le reste de mon équipe, j'aurais aimé dormir un peu plus. Chaque journée apportait son lot de contrariétés, de soucis et de déceptions. Je ruminais les erreurs que j'avais commises et les stratégies qui n'avaient pas donné les résultats escomptés. Il y avait des réunions que je redoutais, des cérémonies que je trouvais absurdes, des conversations que j'aurais volontiers évitées. Si je me retenais toujours de crier sur les gens, je jurais et râlais abondamment, et je me sentais injustement dénigré au moins une fois par jour. Mais ainsi que je l'avais découvert durant la campagne, il était rare que les obstacles et les difficultés m'affectent en profondeur. Au contraire, je pouvais être sujet à la déprime quand je me sentais inutile, dépourvu de raison d'être, quand je perdais mon temps ou ratais une occasion d'agir. Même les pires jours de ma présidence, à aucun moment cela ne m'est arrivé. Ce poste ne laissait pas de place à l'ennui ou à la paralysie existentielle, et lorsque je rassemblais mon équipe pour répondre à un problème épineux, j'en sortais généralement plus motivé qu'exténué. Tous mes déplacements nourrissaient mon imagination, aussi bien la visite d'une usine pour assister à la fabrication de tel ou tel produit que celle d'un laboratoire pour que des scientifiques me présentent une avancée récente. Apporter du réconfort à une famille déplacée par une tempête ou rencontrer des enseignants qui se battaient pour créer des liens avec des enfants que les autres avaient laissés tomber et m'autoriser juste un instant à éprouver ce qu'ils éprouvaient, tout cela faisait battre mon cœur. Le tralala de la présidence, la pompe, la presse, les contraintes physiques, je m'en serais bien passé. Mais le vrai travail, je l'adorais, même lorsqu'il ne me le rendait pas. En dehors des heures du bureau, je m'efforçais de me réconcilier avec la bulle dans laquelle je vivais. J'étais attaché à mes rituels, l'exercice le matin, le dîner en famille, une promenade le soir sur la pelouse sud. Durant les premiers mois de ma présidence, en plus de cette routine, je lisais chaque soir quelques chapitres de l'histoire de Pi à Sacha avant de border mes deux filles. Mais quand est venu le moment de choisir le livre suivant, Sacha et Malia ont décrété qu'elles étaient trop grandes pour que je continue à leur faire la lecture. J'ai masqué ma déception et instauré à la place des parties de billard avec Sam Cass. Nous nous retrouvions au deuxième étage de la résidence après le dîner, quand Michel et moi avions fini de nous raconter notre journée et Sam de nettoyer la cuisine. Je mettais un album de Marvin Gaye, Outkast ou Nina Simone sur mon iPod, le perdant de la veille disposait les boules, et nous jouions pendant une demi-heure environ. Sam me rapportait des bruits de couloir ou me demandait des conseils amoureux. Je lui racontais une pitrerie des filles ou poussais un rapide coup de gueule politique. Mais, le plus souvent, nous nous contentions de casser du sucre sur le dos de tout le monde en tentant des coups invraisemblables, et le claquement de la casse ou le doux bruissement d'une boule tombant dans une poche me vidait l'esprit avant que j'aille m'enfermer dans la salle des traités pour ma séance de travail du soir. Dans les premiers temps, ces parties de billard étaient aussi un prétexte pour sortir fumer en douce sur la terrasse du deuxième étage. Mais ces escapades ont cessé lorsque j'ai arrêté de fumer, juste après la promulgation de l'Affordable Care Act. J'avais choisi cette date parce que le symbole me plaisait, mais j'avais pris ma décision quelques semaines plus tôt, le jour où Malia, sentant l'odeur du tabac sur mon haleine, avait fait la grimace et m'avait demandé si j'avais fumé. Ayant le choix entre mentir à ma famille et montrer le mauvais exemple, j'avais prié le médecin de la Maison Blanche de me faire parvenir une boîte de chewing-gum à la nicotine. Et cela a fonctionné, car je n'ai plus jamais fumé. En revanche, j'ai remplacé une addiction par une autre. Tout le restant de ma présidence, j'ai mâchouillé sans interruption. Les emballages débordaient de mes poches et je semais derrière moi de petits carrés argentés que tout le monde retrouvait par terre, sous mon bureau ou entre les coussins du canapé. Le basket m'a offert un autre refuge salutaire. Dès que mon emploi du temps du week-end le permettait, Reggie Love invitait ses copains et nous réservait un terrain sur la base de Fort McNair, au siège du FBI ou au département de l'intérieur. Les matchs étaient intenses. À de rares exceptions près, la plupart des participants réguliers étaient d'anciens joueurs universitaires de haut niveau, âgés tout au plus d'une petite trentaine d'années. Et même si cela me coûtait de l'admettre, j'étais généralement un des moins bons sur le terrain. Toutefois, tant que je ne cherchais pas à en faire trop, je pouvais assurer ma part, distribuer le ballon à celui qui était le mieux placé, tenter un tir quand j'avais une ouverture, lancer des contre-attaques et me dissoudre dans le flot de la camaraderie et de la compétition. Ces matchs improvisés symbolisaient pour moi une continuité, un lien avec la personne que j'étais autrefois. Et lorsque mon équipe battait celle de Reggie, je ne manquais jamais de le lui rappeler toute la semaine. Mais le plaisir qu'il me procurait n'était rien comparé à l'excitation et à la nervosité que je ressentais quand j'allais encourager l'équipe de Sacha. Les filles de son équipe s'appelaient les Vipers. Bravo à la personne qui avait trouvé ce nom. Et tous les dimanches matins de la saison, Michel et moi allions nous asseoir dans les gradins d'un petit gymnase du Maryland où, au milieu des autres familles, nous crions comme des fous chaque fois qu'une fille avait une vague occasion de marquer, rappelions à Sacha de s'interposer ou de se replier en défense et faisions de notre mieux pour ne pas être le type de parent qui hurle sur les arbitres. Maisie Biden, la petite fille de Joe et une des meilleures amies de Sacha, était la star de l'équipe. Mais la plupart des autres n'avaient aucune expérience du sport encadré. Et c'était apparemment aussi le cas des entraîneurs, un gentil couple d'enseignants de Sidwell qui, de leur propre aveu, ne considéraient pas le basket comme leur sport de prédilection. Après avoir assisté à quelques matchs aussi adorables que confus, nous avons décidé, Reggie et moi, de prendre un peu de notre temps pour donner quelques entraînements informels le dimanche après-midi. Nous avons repris les bases, dribble, passe, s'assurer qu'on a bien fait ses lacets avant de s'élancer sur le terrain, et même si Reggie était parfois un peu trop impliqué dans les exercices, « Paige, ne laisse pas Isabelle t'emmerder comme ça !» Les filles paraissaient s'amuser autant que nous. Et lorsque les Vipers ont remporté leur championnat sur le score de 18-16 au terme d'un suspense insoutenable, Reggie et moi avons fêté leur victoire comme si c'était la finale du championnat universitaire. J'imagine que tous les parents savourent ces moments où le monde ralentit, où les difficultés passent au second plan et où rien ne compte plus que d'être entièrement présent pour assister au miracle qu'est l'éclosion d'un enfant. Après tous les événements que j'avais ratés pendant des années de campagne et de sessions parlementaires, je chérissais d'autant plus les trucs de père ordinaires. Seulement, bien entendu, notre vie n'avait plus rien d'ordinaire, et elle s'est chargée de me le rappeler dès l'année suivante, lorsque, à la mode de Washington, quelques parents d'enfants d'une équipe rivale sont venus se plaindre aux entraîneurs des Vipers, et certainement aussi à l'école, que Reggie et moi n'entraînions pas aussi leurs enfants. Nous leur avons expliqué que ces séances n'avaient rien de particulier, qu'elles étaient un simple prétexte me permettant de passer un peu plus de temps avec Sacha, et avons proposé de les aider à en organiser de leur côté. Mais il est vite devenu évident que ces récriminations n'avaient rien à voir avec le basket. Ils doivent se dire que si vous entraînez leurs gamins, ça fera bien quand ils essaieront d'entrer à Harvard, raillait Reggie. Et que les entraîneurs des Vipers se sentaient évincés. Et j'en ai conclu qu'il serait plus facile pour tout le monde que je me contente d'être un simple supporter. Malgré quelques incidents énervants comme celui-là, je dois bien admettre que notre statut de First Family présentait quantité d'avantages. Nous pouvions visiter les musées de la ville après la fermeture et ainsi éviter la foule. Marvin et moi rions encore en nous rappelant la fois où, à la Corcoran Gallery, il est allé se poster devant un portrait d'homme nu, très grand et très détaillé, de crainte que les filles ne le voient. Comme les grands studios hollywoodiens nous faisaient parvenir les DVD de leur dernière sortie, nous avons amplement profité du cinéma de la Maison Blanche, même si les goûts de Michelle et les miens divergeaient souvent. Elle préférait les comédies romantiques, alors que, d'après elle, dans mes films préférés, il y a toujours des choses horribles et des gens qui meurent. En outre, le formidable personnel de la Maison Blanche nous facilitait la vie quand nous voulions recevoir des invités. Contrairement à la plupart des parents de jeunes enfants, à la fin d'une longue journée de travail, nous n'avions pas à surmonter notre fatigue pour sortir faire les courses, cuisiner ou ranger une maison qui semblait avoir essuyé une tornade. En plus des retrouvailles du week-end avec nos amis proches, nous avons commencé à organiser, tous les deux ou trois mois, de petits dîners dans la résidence auxquels nous invitions des artistes, des écrivains, des universitaires, des chefs d'entreprise et d'autres personnes que nous désirions mieux connaître. Généralement, ces dîners se prolongeaient bien après minuit, animés de conversations enflammées par le vin et qui nous inspiraient. Toni Morrison, à la fois majestueuse et espiègle, nous racontant son amitié avec James Baldwin. Nous instruisait, le coprésident de mon groupe de conseillers sur les sciences et les technologies, le docteur Eric Lander, nous décrivant les récentes avancées de la médecine génétique. Nous enchantait, Meryl Streep s'avançant pour réciter en mandarin les paroles d'une chanson sur les nuages qu'elle avait apprise pour une pièce des années auparavant, et dans l'ensemble, me rassurait quant à l'avenir de l'humanité. Mais le meilleur à côté de la vie à la Maison Blanche avait sans doute trait à la musique. Un des buts que s'était fixé Michel, en tant que First Lady, était de rendre la résidence plus accueillante, d'en faire une maison du peuple où tous les visiteurs se sentiraient représentés, et non pas un lieu de pouvoir, une forteresse isolée. En collaboration avec le secrétariat social, elle a mis en place des visites plus régulières à destination des écoles du secteur, ainsi qu'un programme de tutorat associant des employés de la Maison Blanche à des enfants défavorisés. Elle a accueilli le Trick or Treat de Halloween sur la pelouse sud et organisé des soirées ciné pour les familles de militaires. Dans cette optique, son équipe a aussi instauré des événements musicaux récurrents que nous accueillons en partenariat avec les télévisions publiques et où certains des artistes les plus importants du pays, de grands noms tels que Stevie Wonder, Jennifer Lopez et Justin Timberlake, mais aussi de jeunes espoirs comme Leon Bridges et des légendes vivantes de la stature de B.B. King, venaient consacrer une partie de la journée à animer des ateliers avec des jeunes avant de se produire devant quelques centaines d'invités sur une scène dressée dans le salon Est. Tout comme le concert du Gershwin Prize, lors duquel la Maison Blanche célébrait chaque année un compositeur ou un interprète majeur, ces événements permettaient à ma famille de se trouver, trois ou quatre fois par an, au premier rang d'un spectacle musical époustouflant. Tous les genres étaient représentés. La Motown et Broadway, le blues classique et les danses hispaniques, le gospel et le hip-hop, la country, le jazz et le classique. Les musiciens répétaient généralement la veille, et lorsque j'étais à l'étage de la résidence pendant qu'ils préparaient leur concert, j'entendais les percussions, la basse et la guitare électrique vibrer dans le sol de la salle des traités. Parfois, je descendais par l'escalier de service, je me faufilais dans la salle, et, restant au fond pour ne pas attirer l'attention, je regardais les artistes travailler. Un duo qui peaufinait ses harmonies ou un soliste qui modifiait un arrangement avec l'orchestre de la Maison Blanche. J'étais émerveillé par leur maîtrise de leur instrument, leur générosité dans les moments où ils fusionnaient corps, âme et esprit, et je ne pouvais retenir un pincement de jalousie devant la joie pure et sans réserve de leur démarche, qui contrastait tant avec la voie politique que j'avais choisie. Quant aux concerts en eux-mêmes, ils étaient absolument électriques. Je revois encore Bob Dylan, simplement accompagné par une basse, un piano et sa guitare, nous offrir une version pleine de tendresse de « The times they are changing ». À la fin de la chanson, il est descendu de scène, m'a serré la main, a souri en s'inclinant devant Michel et moi, puis s'est éclipsé sans un mot. Je me souviens d'un jeune dramaturge d'origine portoricaine, Lin-Manuel Miranda, nous expliquant pendant la séance photo précédant une soirée de poésie, de musique et de lecture, qu'il allait nous présenter en exclusivité une chanson de son projet de comédie musicale hip-hop sur la vie du premier secrétaire américain au Trésor, Alexander Hamilton. Nous l'avons encouragé poliment, mais en notre fort intérieur, nous étions sceptiques, jusqu'au moment où il est monté sur scène et a lancé la musique, et alors le public est devenu fou. Il y a eu aussi la fois où Paul McCartney a donné la sérénade à ma femme en jouant Michel. Elle a ri, un peu gênée, pendant que le public applaudissait, et je me suis demandé ce qu'auraient dit ses parents en 1965, quand cette chanson était sortie, si quelqu'un avait frappé à la porte de leur petite maison du Southside pour leur annoncer qu'un jour, le Beatles qu'il avait écrite la chanterait à leur fille sur une scène installée dans la Maison Blanche. Michelle aimait ses concerts autant que moi, mais je sentais qu'elle aurait préféré être invitée plutôt qu'organisatrice. Elle avait cependant toutes les raisons de se féliciter de son adaptation à cette nouvelle vie. Nos filles paraissaient heureuses, elle s'était rapidement constituée un nouveau cercle d'amis, parmi lesquels les mères d'un grand nombre de camarades de Sacha et Malia, et elle était un peu plus libre que moi de quitter l'enceinte de la Maison Blanche sans se faire remarquer. Son initiative contre l'obésité infantile, baptisée « Let's Move », bougeons, avait été bien reçue et montrait déjà des résultats significatifs, et elle s'apprêtait à lancer avec Jill Biden un nouveau programme de soutien aux familles de militaires, Joining Forces, Unissons nos forces. Chaque fois qu'elle faisait une apparition publique, que ce soit pour visiter une école ou échanger des plaisanteries sur le plateau d'un talk show, tout le monde était conquis par sa franchise et son énergie, son sourire et sa vivacité d'esprit. En somme, on pouvait dire qu'elle n'avait pas raté une marche ni fait une seule fausse note depuis son arrivée à Washington. Et pourtant, malgré son succès et sa cote, je continuais à sentir en elle une tension sous-jacente, légère mais constante, semblable au ronronnement lointain d'une machine invisible. À croire que, maintenant que nous étions confinés entre les murs de la Maison Blanche, tous ces anciens motifs d'irritation devenaient plus concentrés, plus vifs, qu'il s'agisse de mon absorption permanente dans mon travail, de la manière dont la politique exposait notre famille à une surveillance et à un examen incessant, ou de la tendance généralisée, même chez nos proches, à traiter sa fonction comme secondaire. Plus que tout, la Maison Blanche lui rappelait jour après jour que plusieurs aspects fondamentaux de sa vie lui échappaient désormais en partie. Les personnes que nous voyons, les endroits où nous passions nos vacances, celui où nous habiterions après l'élection de 2012, et même la sécurité de sa famille, tout cela était, à un niveau ou un autre, tributaire de la manière dont je faisais mon travail, de ce que faisait et ne faisait pas le staff de l'aile ouest, des caprices des électeurs, de la presse et de Mitch McConnell, des chiffres du chômage ou d'un événement parfaitement imprévu se produisant à l'autre bout du monde. Plus rien n'était certain, bien loin de là. C'est pourquoi, consciemment ou non, en dépit des petits triomphes et des petites joies du jour, de la semaine ou du mois, une part d'elle restait sur ses gardes, guettait le prochain revirement du sort et se préparait au pire. Mais elle me faisait rarement part de ses soucis. Elle savait le poids que je portais et ne voyait pas l'intérêt d'en rajouter, d'autant que, dans l'immédiat, je ne pouvais rien faire pour changer notre situation. À moins qu'elle n'ait arrêté de parler parce qu'elle se doutait que je tenterais de la raisonner ou de la rassurer provisoirement, ou que je laisserais entendre qu'elle avait simplement besoin de regarder les choses sous un autre angle. Si j'allais bien, elle n'avait aucune raison d'aller mal. Il y avait encore des moments où tout était bien, des soirs où nous nous blottissions sous une couverture pour regarder la télé, des dimanches après-midi où nous jouions sur le tapis avec les filles, et beau, et où les rires résonnaient dans tous les étages de la résidence. Mais le plus souvent, Michel se retirait dans son bureau après le dîner, tandis que je m'engageais dans le long couloir menant à la salle des traités. Quand je finissais de travailler, elle dormait déjà. Je me déshabillais, me brossais les dents et me glissais sous les draps en veillant à ne pas la réveiller. Et même si je n'avais généralement aucun mal à m'endormir, le plus souvent j'étais tellement fatigué que je ronflais 5 minutes après que ma tête avait touché l'oreiller, il y avait des nuits où, couché près d'elle dans le noir, je repensais à l'époque où tout était plus léger entre nous, où son sourire était plus présent et notre amour moins entravé. Et alors mon cœur se serrait à l'idée que cette époque appartenait peut-être au passé. Aujourd'hui, avec le recul, je me demande si la réaction de Michel à tous les changements que nous affrontions n'était pas la plus honnête, tandis que, en feignant le calme pendant que les cris s'amoncelaient et en répétant que tout finirait par s'arranger, je ne faisais en réalité que me protéger, et si cela n'a pas ajouté à sa solitude. C'est vers cette période que j'ai commencé à faire un rêve récurrent. Dans ce rêve, je suis dans une ville inconnue, dans un quartier avec des arbres, des vitrines et peu de circulation. C'est une belle journée, l'air est doux et parcouru par une petite brise, et autour de moi, les gens font leurs courses, sortent leurs chiens ou rentrent du travail. Dans une version de ce rêve, je suis à vélo, mais le plus souvent je suis à pied, et je déambule sans penser à rien de précis quand, tout à coup, je me rends compte que personne ne me reconnaît. Ma garde rapprochée a disparu, je n'ai aucune obligation. Mes choix n'ont plus de conséquences. J'entre dans une épicerie, j'achète une bouteille d'eau ou de thé glacé, et je discute un instant avec la personne qui tient la caisse. Ensuite, je vais m'asseoir sur un banc, j'ouvre la bouteille, je bois une gorgée, et je regarde le monde défiler devant moi. J'ai l'impression d'avoir gagné le gros lot.